Je me suis toujours demandé comment je serais une fois adulte.
Vous avez quel âge ?
25 ans.
Oula !
Tous les adultes sont des pirates !
Toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants.
Cap ou pas cap ?
Mais peu d'entre elles s'en souviennent.
Sois jeune et tais-toi.
Être un adulte, définition. Avoir une cravate.
Stop, c'est nul ! J'étais content quand j'avais une machine à laver.
Ok, Pema.
Je sais pas si je me sens vraiment adulte.
Mais je pense que je serai jamais adulte.
Pour moi, adulte, ça veut dire responsable de ses actes.
Il s'agirait de grandir.
J'ai appris beaucoup de choses à l'école. J'ai appris à lire, à compter. À contester l'autorité. J'ai appris que la bataille de Marignan avait eu lieu en 1515, que Rousseau écrivait sur l'éducation, mais qu'il a abandonné tous ses enfants. En revanche, on n'a pas jugé bon nous apprendre à gérer nos émotions et à comprendre celles des autres, à remplir une fiche d'impôt ou encore à ne pas attendre le dernier moment pour faire ce que l'on a à faire. C'est pour une amie. Alors à l'approche de la trentaine, je me suis dit qu'il était temps d'acquérir les compétences qui me permettraient de ne plus avoir de sueur froide lorsque je reçois un courrier de la République française. Qu'est-ce qu'un adulte ? Et surtout, comment le devient-on quand on n'a pas eu de mode d'emploi ? Être adulte, est-ce que c'est trouver l'amour ? Je suis Louise Aubéry et je n'ai absolument pas la réponse. Et c'est pour cela que j'accueille le philosophe André Comte-Sponville dans Adolescence.
Il s'agirait de grandir.
Peut-on trouver l'amour ? Je commence à en douter. En tout cas, que ce soit lui qui nous trouve, comme la Belle au bois dormant qui a quand même réussi l'exploit de trouver l'amour dans son sommeil. Non, je ne pense pas qu'on trouve l'amour comme s'il nous attendait là, quelque part, au coin d'une rue. Comme si l'amour n'était qu'une partie de cache-cache qu'il s'agissait de gagner. Pour le trouver, je me suis rendue au supermarché du cœur, cet endroit où l'on peut désormais choisir le produit qui nous fait le plus envie, en jugeant simplement à l'emballage. Je sélectionnais ceux qui correspondaient le plus à mes critères, un peu comme quand on essaye plusieurs jeans avant de trouver celui qui nous fait un cul de dingue. La seule différence, c'est que dans le premier cas, tu ne peux pas obtenir de remboursement quand tu te rends compte qu'il ne convient pas. Mes attentes, certainement trop influencées par la collection entière de Cœur Grenadine que j'ai lue à 9 ans, étaient sans cesse déçues par la réalité, et j'ai donc arrêté de chercher l'amour. C'est là que je me suis rendu compte à quel point les personnes qui disent « ça te tombera dessus quand tu t'y attendras le moins » n'avaient jamais réellement dû attendre. J'attends l'homme parfait sans être parfaite moi-même. Je juge, mais je n'ai pas envie d'être jugée. J'ai envie d'aller en date, mais j'ai la flemme d'aller en date. Je ghost, mais je ne comprends pas pourquoi je me fais ghoster. Mais en même temps, personne ne m'a donné de mode d'emploi. On m'a juste dit « Louise, tu approches de la trentaine, il serait temps de trouver quelqu'un. » Trouver le grand amour, comme s'il était un produit fini plutôt qu'une œuvre que l'on construit. Alors, avons-nous, comme Platon l'imaginait, une moitié qui nous attend, prêt à nous rendre complets ? Choisit-on l'amour ou est-ce lui qui nous choisit ? Ou, comme le défend Simone de Beauvoir, il est naïf de penser qu'en trouvant l'amour, on se trouvera nous-mêmes. Si je sais ça, je pourrais continuer à donner des conseils à mes amis sans jamais les appliquer pour moi-même. Bonjour André Comte-Sponville.
Bonjour.
Que pensez-vous de ce que je viens de dire ? Et l'avez-vous ressenti, dans une certaine mesure, à un moment de votre vie ?
Non, parce que moi, j'ai aimé tôt, et donc je n'ai jamais douté que l'amour existe. Alors vous demandez, est-ce qu'on peut trouver l'amour ? Le point de départ, c'est qu'on le cherche. Tous, c'est-à-dire que nous aimons l'amour. Voilà. Un constat qui n'est pas niable, ce que saint Augustin, dans les Confessions, disait joliment en latin, « Amare amabam, nundum amabam ». J'aimais aimer, je n'aimais pas encore. J'aimais aimer, c'est-à-dire qu'on aime tous l'amour. D'abord parce qu'on a envie d'être aimé, on souhaite aimer soi-même. Ça ne veut pas dire qu'on aime en effet. Mais il y a déjà ce désir d'amour. Je dirais presque ce besoin d'amour. On pourrait se demander pourquoi ce besoin. Ma réponse est qu'au fond, nous aimons l'amour parce que nous sommes tombés dedans quand nous étions petits, comme Obélix dans la
marmite.
Dans la marmite, dans la potion magique, c'est ça. Autrement dit, nous avons été aimés d'abord, presque tous, presque toujours, par nos parents, par la mère peut-être plus universellement que par le père, mais très souvent par les deux. Nous avons été aimés d'abord de l'amour le plus fort que nous rencontrerons jamais, c'est-à-dire que c'est sans doute la seule fois qu'une femme m'ait aimé plus qu'elle ne s'aimait elle-même. En l'occurrence, ma mère aurait été prête à donner sa vie sans hésiter pour sauver la mienne. Donc cet amour à la fois inconditionnel et parfaitement conditionné, parce qu'elle m'aimait, parce que j'étais son fils.
Oui.
il est derrière nous définitivement. Mais ça a été une expérience tellement forte que depuis, ben, nous cherchons quelque chose qui pourrait valoir à côté de cet amour-là. Alors, c'est ce que Freud expliquera quand il dit que tout amour est un amour de transfert. Bon, l'idée de Freud, c'est qu'au fond, à travers nos histoires d'amour d'adultes, nous revivrons, peu ou prou, bien ou mal, cet amour originel qu'il appelle l'Œdipe, finalement. Alors, je pense qu'il exagère sensiblement quand il dit que tout amour est un amour de transfert, mais je veux bien croire qu'il y ait dans tout amour quelque chose de la nostalgie de cet amour primordial. En tout cas, voilà. C'est parce que nous avons été aimés d'abord, que nous sommes capables d'aimer, que nous avons envie d'être aimés de nouveau.
Est-ce que cela signifie que les personnes qui ont été mal aimées sont condamnées à mal aimer à leur tour ?
Écoutez, il faudra interroger, là, pour le coup, un psychologue ou un psychiatre, mais je crois qu'en effet, quelqu'un qui n'aurait pas été aimé ou qui était vraiment trop mal aimé risque d'avoir du mal, en effet, dans sa vie affective, y compris dans sa vie amoureuse, dans la suite. Cela dit, bon, la vie est longue, hein, il ne faut pas oublier la résilience, comme on dit aujourd'hui, la capacité à surmonter ses problèmes, mais c'est vrai que le fait d'avoir été aimé normalement, c'est-à-dire passionnément, parce que l'amour parental, il est parfaitement normal, parfaitement banal et parfaitement passionnel. En même temps, c'est une chance, voilà, d'avoir été bien aimé, à peu près bien, parce que ma mère, en l'occurrence, était une femme plutôt malade, dépressive. Mais même la plus faible des femmes a des capacités d'amour formidables. Je ne sais plus si c'est mon ami Ronny Breumann ou Bernard Kouchner, les deux sont des French doctors, comme on dit. Ils ont passé une bonne partie de leur vie à sauver des vies dans tel ou tel pays, parmi les guerres, les famines et autres. Et je ne sais plus auquel des deux j'avais demandé « qu'est-ce qui t'a le plus frappé dans toutes ces années que tu as passées au plus près de l'horreur ?» Il m'avait répondu « les mères ». Les mères. C'est elles les plus courageuses, les plus merveilleuses, les plus admirables dans toutes les situations et spécialement dans les pires. Voilà. Souvent, mes amis croyants me disent « mais si Dieu n'existe pas, d'où vient l'amour ?» Voilà. Si Dieu existe, comme Dieu est amour, l'amour viendrait de Dieu. Mais d'où vient l'amour ? Ma réponse, c'est « il vient du sexe, d'une part, et des mères, d'autre part. » Toute la force et la difficulté de l'amour tient dans cette double origine, une origine animale d'abord, quasi bestiale. Le sexe, il n'est pas spontanément humain, il est d'abord animal. Et puis les mères, c'est-à-dire la partie peut-être la plus humaine de l'humanité.
Comment est-ce que votre conception de l'amour a évolué ?
Oh, je suis trop vieux pour me souvenir bien de ce que j'en pensais quand j'étais jeune.
Vous vous souvenez de votre première copine ?
Je me souviens de ma première histoire d'amour, oui. La toute première, c'était en maternelle.
Ah, c'était précurseur.
Amour que je n'ai jamais déclaré, mais je me souviens très bien de la façon dont cet amour m'est tombé dessus, comme vous disiez. Mais bon, ça a peut-être duré que quelques jours. Mon souvenir porte sur une demi-journée, finalement. Je me souviens de mon premier amour d'adolescent au lycée. Mais qui n'a débouché sur rien. D'ailleurs, je n'ai jamais dit à la jeune fille en question que j'étais amoureux d'elle. Elle ne l'a jamais su. On s'est revus 40 ans plus tard. Elle ne se souvenait aucunement de moi. Ce qui est une leçon, finalement. Alors bon. Mais j'en garde quand même le souvenir d'une légèreté heureuse. Tout d'un coup, je me sentais plus vivant. Et je crois que c'est une vérité générale. On est plus vivant quand on aime, que quand on n'aime pas. Et d'ailleurs, quand Freud travaille sur la mélancolie, alors, la mélancolie au sens psychiatrique du terme, hein, l'effondrement dépressif, il explique que la mélancolie, c'est la perte de la capacité d'aimer. Et quand on n'aime rien ni personne, la vie devient atrocement triste, malheureuse. Voilà, donc mes premières amours, oui, c'était comme une intensification de la vie, intensification joyeuse, y compris d'ailleurs, comme c'est le cas de ces deux premières histoires d'amour, quand ça n'a débouché sur absolument rien.
Ouais, c'était à sens unique, mais vous aviez quand même ce bénéfice ou ce surplus de...
Oui, c'était... parce que l'important, comme l'a dit Aristote, c'est pas d'être aimé, c'est d'aimer. Je me souviens, à la fin de Nadja, je crois, André Breton dit à sa fille, puisque le livre lui est dédié, « Je vous souhaite d'être follement aimé ». C'est un contresens sur l'existence. Ce qu'il faut souhaiter à sa fille, à son fils, c'est d'aimer follement. Et puis, si possible, d'aimer sagement. Donc, de ne pas s'arrêter à ce moment de folie de la passion amoureuse, qui est un début souvent spectaculaire, mais qui n'est qu'un début.
Et de cette vision de l'amour comme une intensification de la vie, comment au fur et à mesure de vos relations, cette conception et cette définition de l'amour amoureux a changé ?
Mais après, quand j'ai fait de la philosophie, puis quand j'ai vécu en couple, parce que moi j'ai vécu en couple assez tôt, entre 19 ans et 24 ans, je vivais avec une jeune fille, donc j'ai très vite vu que le couple et la passion amoureuse, c'était deux choses différentes. Et c'est ce que la philosophie m'a aidé à comprendre. Alors, il y a trois mots grecs qui ont statut de concept. Eros, philia, agapé. Alors, il faut dire un mot sur chacun de ces trois mots. Eros, ce n'est pas le sexe, comme on le croit souvent en français à cause des mots érotiques, érogènes. Ce n'est pas le dieu de la sexualité, qui serait plutôt Aphrodite. Non, non, c'est le dieu de l'amour. Mais c'est un amour très particulier, parce que c'est l'amour patient. C'est l'amour qu'on ressent quand on est amoureux, mais le ressent le plus fort du mot, quand on est redingue amoureux, comme on dit. Et philosophiquement, Eros, c'est l'amour selon Platon. Le plus beau texte, sans doute, jamais écrit en philosophie sur la passion amoureuse, c'est un texte de Platon qui s'appelle « Le banquet », dans lequel Platon explique que l'amour est désir et que le désir est manque. Et donc, Platon écrit « Ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'est pas, ce dont on manque, voilà les objets du désir et de l'amour. » Et voilà pourquoi le bonheur, c'est souvent manqué. Parce que si l'amour est désir et si le désir est manque, bah par définition, je n'aime passionnément que ce que je n'ai pas. Or, qu'est-ce que c'est qu'être heureux ? Bah, être heureux, c'est avoir ce qu'on désire. Mais si je ne désire que ce que je n'ai pas, par définition, je n'ai jamais ce que je désire. Et donc, je ne suis jamais heureux. Et donc, ou bien j'aime passionnément une femme ou un homme avec qui je ne vis pas, qui me manque, ou bien je vis avec la femme ou l'homme que j'aime, mais qui dès lors ne manque plus. Et donc, je ne suis plus amoureux. Autrement dit, entre la passion amoureuse et le couple, il y a une contradiction. On ne peut pas avoir le manque et la présence en même temps. Et donc, ceux qui vous disent « on vit ensemble depuis 30 ans, je suis aussi amoureux qu'au premier jour », je n'en crois rien. D'ailleurs, ça serait un état pathologique, de tout à fait anormal. D'où la grande formule de Schopenhauer que j'ai souvent citée. Donc, Schopenhauer explique que quand on est dans le manque, on est dans la souffrance, mais quand il n'y a plus de souffrance, qu'est-ce qui reste ? Ben, il reste l'ennui. L'ennui, c'est-à-dire l'absence du bonheur au lieu même de sa promesse attendue. Et Schopenhauer écrit « Ainsi, toute notre vie oscille, comme un pendule, de droite à gauche, de la souffrance à l'ennui. » Souffrant du chagrin d'amour, ennui du couple. Sauf qu'il y a une chose que ça n'explique pas, c'est qu'il existe parfois des couples heureux. Autrement dit, si vous donnez raison à Platon dans vos histoires d'amour, si vous ne savez aimer que ce qui vous manque, le prince charmant, disons, bah vous allez donner raison à Louis Aragon. Si l'amour est manque, Platon, alors Aragon, il n'y a pas d'amour heureux. Mais comme il existe par ailleurs des couples heureux, ça veut dire qu'il faut une autre conception de l'amour, c'est plus celle de Platon, c'est plus Eros en grec, c'est plus la passion amoureuse, c'est ce que les Grecs appelaient philia, qu'on traduit un peu platement par amitié, mais qui va prendre alors au sens le plus diversifié et le plus fort du mot. Philia, c'est l'amour de tout ce qui ne manque pas. Et philosophiquement, c'est l'amour selon Aristote et selon Spinoza, puisqu'Aristote écrit joliment dans l'éthique à Eudème, aimer, c'est se réjouir. Et donc, si aimer pour vous, c'est vous réjouir, alors clairement, Aragon a tort. Il n'y a pas d'amour malheureux. Alors, sauf dans le deuil, au sens propre, parce que l'autre est mort, au sens figuré, parce que l'autre vous a quitté ou ne vous aime pas. Voyez, mais en dehors du deuil, si l'amour est joie, alors il n'y a pas d'amour malheureux. Et la vérité, bah, c'est que Platon a raison, Aristote a raison, mais ils ne parlent pas de la même chose. Il y a des amours malheureux tant qu'on aime ce qui manque, et en vérité, c'est le destin normal de la passion amoureuse si on veut qu'elle dure, elle ne peut durer que dans le malheur. Et puis, il y a des amours heureux quand on aime ce qui ne manque pas, mais qui réjouit.
Est-ce que selon vous, on choisit de tomber amoureux ?
Non, on ne choisit pas de tomber amoureux, ni d'ailleurs de le rester. Autrement dit, l'amour est un sentiment. Et un sentiment, ça ne se commande pas. C'est pourquoi, disait Kant, l'idée d'un devoir d'aimer est un non-sens. On ne décide pas d'être amoureux, ça ne dépend pas de nous. En revanche, on choisit ses amis. Ouais. C'est pour ça qu'entre Eros, la passion amoureuse, et Philia, l'amitié et le couple. Parce que pour Aristote, qui s'est marié deux fois, les deux fois heureusement, sa première femme est morte, le couple est une amitié, ce qu'il appelle Philia érotique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire faire l'amour avec son ou sa meilleure amie.
C'est marrant.
Pour moi, c'est la définition de ce qu'on appelle un couple heureux. Parce qu'il faut prendre, encore une fois, philia au sens le plus fort du terme. Notamment autour de la notion bien répandue de meilleur ami. Votre meilleur ami, c'est la personne qui vous connaît le mieux et qui vous aime le plus, que vous connaissez le mieux et que vous aimez le plus. Votre amant ou votre amante, selon les cas, vous connaît beaucoup mieux que vos autres amis qui n'ont jamais couché avec vous, vous connaît beaucoup mieux que vos parents ne vous ont jamais connu, vous connaît beaucoup mieux que vos enfants ne vous connaîtront jamais, vous aime beaucoup plus, sauf peut-être que vos parents. C'est la seule exception, mais voilà. Mais la personne qui vous connaît le mieux, qui vous aime le plus, que vous connaissez le mieux et que vous aimez le plus, en gros, c'est la personne dont vous partagez la vie. Et c'est ça qu'Aristote appelle « philia erotique », c'est-à-dire une amitié très forte, celle du meilleur ami, dans le cas des couples le plus fort, mais qui assume aussi la dimension sexuelle. Mais au fond, pourquoi n'aurait-on pas le droit de coucher avec son ou sa meilleure amie? Ça serait quand même paradoxal.
Mais du coup, comment se détacher de la peur de se tromper, qui, je trouve, est très liée au fait, finalement, à la conception que l'amour nous choisit plus qu'on le choisit. Et c'est une préoccupation de beaucoup d'amis autour de moi, cette idée de « il faut trouver la bonne personne ». Et en fait, ça fait peur quand on se dit qu'on ne maîtrise pas de qui on tombe amoureux.
Oui, mais parce que ce n'est pas grave de tomber amoureux. Ne vous en faites pas, ça ne durera pas. Et donc la vraie question, c'est est-ce qu'on est capable d'aimer après la passion? Tomber amoureux, ça ne se commande pas, on ne choisit pas d'être amoureux, mais je disais, on choisit ses amis. Le vrai choix, c'est décider ou pas de vivre avec la personne vous êtes tombé amoureux. Vous savez, il y avait un livre de Frédéric Beigbeder, ça s'appelait « L'amour dure 3 ans ». Moi, 3 ans, je trouvais ça très long. Parce que je n'ai jamais été amoureux 3 ans de suite, évidemment. Alors, je lis le livre et je lis l'explication. L'amour dure 3 ans, 1 an de passion, 1 an de tendresse, 1 an d'ennui. Alors là, oui, là, d'accord, je veux bien reconnaître quelque chose de mes histoires d'amour de jeunesse. Sauf que j'ai aussi vécu des couples heureux. Et moi, ça fait maintenant 36 ans que je suis avec la même femme et je m'en félicite tous les jours. Mais je ne vais pas prétendre que je suis amoureux d'elle comme je pouvais être amoureux il y a 36 ans. Mais ce n'est pas que je l'aime moins, en vérité. C'est que je l'aime plus. Parce que quand on tombe amoureux, c'est ce que Saint-Bal appelle la cristallisation, en vérité. On tombe amoureux des illusions qu'on se fait sur la personne qu'on croit aimer. On tombe amoureux de sa propre image aimante, si vous voyez. Et donc, dans toute passion amoureuse, il y a une part d'illusion. Reconnaissons que ce n'est pas dans la passion amoureuse, au plus fort de la passion amoureuse, qu'on est ni le plus intelligent, ni le plus lucide. Et vous pardonnerez aux philosophes de préférer l'intelligence à la sottise et la lucidité à l'illusion. Et donc, ce que la vie m'a appris, c'est d'accorder un peu moins d'importance à la passion amoureuse et beaucoup plus au couple. Quelque chose qui ne relève plus de l'illusion, qui relève de la vérité. C'est ce que disait Paul Éluard à sa femme Neusch, « On ne peut me connaître mieux que tu ne me connais. Oui. » Autrement dit, autant l'amour est du côté de l'illusion, de la cristallisation, on se fait des illusions sur l'autre et on tombe amoureux de ces illusions, autant le couple est un lieu de vérité. Et donc, la personne qui est amoureuse de moi, à la limite, ça veut dire qu'elle te fait des illusions sur moi. Mon inquiétude, dès lors, c'est qu'est-ce qu'il va rester de son amour quand elle aura appris à me connaître comme je suis, voyez ? Alors que la femme qui m'aime parce qu'elle a appris à me connaître me fait le plus formidable des cadeaux. Et donc, moi, ce que je dis aux jeunes gens, puisque vous en faites partie, finalement, je dis souvent aux jeunes garçons, si tu rencontres une jeune fille qui cherche le prince charmant, tu te barres en courant dans l'autre direction. Ça ne peut pas marcher. D'abord, le prince charmant n'existe pas. Et donc, tu ne peux que la décevoir. Et donc, forcément, elle t'en voudra de l'avoir déçue. Et je dis de même aux jeunes filles, si tu rencontres un garçon qui cherche la femme idéale, tu te barres en courant dans l'autre direction. Il n'y a pas de femme idéale. Tu ne peux que le décevoir. Et donc, l'amour commence sur de saines bases quand on ne croit plus au prince charmant, quand on ne croit plus à la femme idéale et quand on ne fait plus d'illusions sur la passion amoureuse, ce qui n'empêche pas de tomber amoureux. Mais ça veut dire qu'on n'y croit plus tout à fait. Vous savez, un jour, un journaliste me demandait quel type de femme je préférais. Et je lui ai répondu, écoutez, le genre de femme que je préfère, c'est celle qui ne se font plus d'illusions sur les hommes et qui les aime quand même. Celle qui vous aime sans se faire d'illusions sur vous, et de ce point de vue, la vie sexuelle est un formidable facteur de désillusion, mais je dirais au bon sens, au sens positif du terme, elle vous fait le plus beau des cadeaux.
Quelles sont les plus grandes menaces qui pèsent aujourd'hui sur le couple? Pas sur la passion, mais sur le couple.
Il y en a plusieurs. Il y a d'abord une autre passion. Quand on est à deux, on n'est pas à l'abri de tomber amoureux d'un autre ou d'une autre. Et donc chacun le vit avec plus ou moins d'inquiétude en fonction du genre de couple qu'on vit. Mais ça peut arriver à tout le monde de tomber amoureux. Ouais. Ça ne se décide pas, précisément. Et puis il y a l'ennui. Quand l'autre ne manque plus, c'est un peu ce que dit Schopenhauer, quand il n'y a plus de manque, le risque, c'est l'ennui. Alors il faut être lucide là-dessus. Moi, je dis souvent, quand je fais des conférences sur l'amour, il n'y a pas de couple où l'on ne s'ennuie jamais. Ça n'existe que dans les mauvais romans d'amour. Mais vraiment, les très mauvais, la collection Harlequin. Et donc, un couple heureux, ce n'est pas un couple où l'on ne s'ennuie jamais, arrêtez de rêver. Un couple heureux, c'est un couple où l'on s'ennuie beaucoup moins à deux que tout seul. C'est déjà pas mal, et les célibataires en savent quelque chose. Mais un couple vraiment très heureux, c'est un couple où l'on s'ennuie beaucoup moins à deux qu'avec tous les autres. Et là, croyez-moi, ça devient franchement délicieux. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'ennuie jamais, ça ne veut pas dire qu'on vit dans une perpétuelle extase amoureuse, tout ça, c'est de la mauvaise littérature. Mais ça veut dire qu'on se réjouit de partager la vie de cette personne-là. Et ça, c'est quand même une satisfaction formidable. Ça n'empêche pas d'avoir été amoureux, ça n'empêche pas de retomber amoureux d'autres fois. On a presque tous été amoureux plusieurs fois, si ça fait partie de l'idée même de l'amour. Et en même temps, nous cherchons quelque chose qui dure au-delà de la passion amoureuse. Et moi, ce qui me frappe, c'est que, pas m'interroger sur la différence entre ma jeunesse et maintenant, s'agissant de l'amour, je dirais, pour résumer, que je crois moins à la passion amoureuse que quand j'étais adolescent, mais je crois bien plus au couple que lorsque j'étais adolescent.
En fait, je pense que le danger, c'est aussi que le couple étant représenté comme un idéal, il y en a beaucoup qui, si je suis un peu votre définition de finalement chercher quelqu'un avec qui on s'ennuie moins que tout seul, il y a beaucoup de personnes, notamment des femmes, qui, consciemment ou inconsciemment, baissent leurs standards parce qu'en fait, elles souhaitent juste être aimées, ou aimées d'ailleurs, c'est parfois compliqué de faire la différence. Et je trouve que c'est assez dangereux, en fait, de juste rechercher quelqu'un avec qui on se sentira un peu moins seul. Est-ce vraiment suffisant ?
C'est sans doute pas suffisant. Et en même temps, c'est vrai que la solitude n'est pas non plus quelque chose de toujours exaltant. Enfin, il faudrait distinguer ce que j'appelle la solitude et ce que j'appelle l'isolement. L'isolement, c'est l'absence de relation avec autrui. Et donc, c'est un malheur ou une pathologie, parfois les deux. La solitude, c'est autre chose. C'est pas l'absence de relation avec autrui, c'est une dimension constitutive de la condition humaine. Vous savez, Blaise Pascal écrit dans Les Pensées, « On mourra seul ». Ça ne veut pas dire qu'on mourra isolé, sans personne autour. Au XVIIe siècle, on mourait pratiquement jamais seul. Il y avait toujours la famille qui était là, un prêtre, parfois un médecin chez les riches. Mais pourquoi Pascal écrit « on mourra seul » ? Parce que personne ne peut mourir à votre place. Pour la même raison, on vit seul, parce que personne ne peut vivre à votre place. On aime seul, parce que personne ne peut aimer à votre place. D'où la belle formule de Rainer Maria Rilke dans les lettres à un jeune poète qui écrit « dans la mesure où nous sommes seuls, l'amour et la mort se rapprochent. » Oui, parce qu'il y a une dimension de solitude dans l'amour aussi. Si vous croyez que le couple, c'est la fin de la solitude, au sens où je prends le mot, vous racontez des histoires. Là encore, Rilke est éclairant quand il écrit qu'un couple, ce n'est pas la fusion qui supprimerait la solitude. C'est au contraire deux solitudes qui s'inclinent l'une devant l'autre. Et donc, si on rêve d'un couple qui abolirait la solitude, on se trompe sur le couple. En revanche, si on rêve d'un couple qui est la rencontre de deux solitudes qui ont décidé de partager la même vie, on est bien plus près de la vérité du couple. Mais par ailleurs, il est vrai que la peur d'être seule, et je partage votre sentiment pour beaucoup de femmes qui baissent un peu leurs exigences parce que les mecs, souvent, en effet, ne sont pas à la hauteur et qui préfèrent, contrairement au dicton bien connu, être mal accompagné qu'être seul. Et c'est bien triste. Mais voilà, mais ça veut dire aussi, à contrario ou par différence, que ce dont nous rêvons le plus souvent, c'est quand même d'un couple heureux. Mmh. C'est-à-dire que je connais personne qui préfère vivre seul. Enfin, il y a des gens qui vivent seuls, mais parce qu'ils n'ont pas trouvé la personne qui leur convenait ou parce que ça n'a pas marché, que sais-je. Mais il me semble que l'idée la plus répandue, en tout cas ce que moi j'ai vérifié, c'est qu'en gros, on est plus heureux à deux que tout seul. Mais à condition, là encore, de ne pas se faire trop d'illusions ni sur l'amour, ni sur l'autre, ni sur la vie de couple, si vous voulez. Et c'est pour ça que vous évoquiez au début le mythe, le discours d'Aristophane au début du banquet de Platon, chacun cherchant sa moitié. Quand on l'a retrouvé, dit Aristophane, enfin on retrouve la belle unité originelle perdue. On ne fait plus qu'un au lieu de deux. Mais ça, c'est une illusion, ça n'existe pas. Et d'ailleurs, Platon, qui déteste Aristophane, s'il lui fait dire ces mots-là, c'est que ce n'est pas la vérité de l'amour. Donc le couple fusionnel, c'est une impasse, c'est un contresens sur l'amour. Il ne s'agit pas de ne faire qu'un, il s'agit de faire deux, mais si possible, heureusement deux. Quand on n'est qu'un au lieu de deux, ce n'est pas l'amour, c'est de la masturbation. Alors, ce n'est pas un péché, on est d'accord là-dessus, mais la plupart d'entre nous, on pense que c'est quand même beaucoup moins bien, beaucoup moins intéressant. Voilà, il y a une différence sexuelle. Le plus souvent, le pire est du côté des mecs. Hein. 95% des crimes de sang sont faits par des hommes. Le viol, le proxénétisme, tout ça, ce sont des horreurs essentiellement masculines. Ça ne veut pas dire que les femmes soient incapables du pire, ne soient que douceur et qu'amour, mais enfin, ça veut dire quand même qu'il y a une part de violence dans la masculinité dont il faut toujours se méfier. L'humanité doit quand même beaucoup de ce qui la rend humaine et pas bestiale, pas agressive, pas guerrière, au pôle féminin. Ça, je crois beaucoup ça. Il m'est arrivé de dire, c'est un peu une boutade, que l'amour était une invention des femmes. Ça veut dire qu'une humanité exclusivement masculine, parce qu'au fond, ça aurait pu se produire. Hein. La nature connaît d'autres modes de reproduction que la reproduction sexuée. Mon idée, c'est qu'une humanité exclusivement masculine n'aurait peut-être jamais inventé l'amour. Le sexe et la guerre auraient suffi toujours. Disons, le sexe, la guerre, le football et les jeux vidéo auraient suffi toujours. Par chance, pour les femmes, ça ne suffit pas. Elles ont donc inventé autre chose, et qu'elles ont inventé en tant que mère, sans doute, bien plus tôt et bien plus qu'en tant qu'amante ou qu'épouse, qu'on appelle l'amour, qu'elles se sont empressées d'enseigner à leurs hommes, à leurs fils, à leurs compagnons, avec une telle efficience pédagogique que pour les plus doués de ces hommes, on finirait presque par oublier que c'est un rôle de composition. Alors, c'est une hypothèse, je ne dis pas que ça s'est passé comme ça, mais disons que dans ce pôle-là, la différence sexuelle me paraît importante. Alors, il m'est arrivé aussi de dire qu'au fond, il y a une asymétrie dans le rapport entre l'amour et la sexualité. J'entends par là que pour beaucoup d'hommes, l'amour est au service de la sexualité. Il me semble que pour beaucoup de femmes, c'est l'inverse, la sexualité est au service de l'amour. Et tant mieux pour le couple, parce que du même coup, les uns cherchant le sexe au service de l'amour, d'autres l'amour au service du sexe, ils vivent ensemble ce qu'on appelle une histoire d'amour et de sexe, c'est-à-dire un couple. Et donc cette asymétrie qui fait partie des fois de la difficulté des couples, en tout cas hétérosexuels, fait aussi quelque part leur prix, leur valeur, leur intérêt. Il y a une espèce de tension, mais qui est aussi qui est une cause de difficulté, parfois dans les couples, mais aussi une cause de dynamisme.
Je me demande quand même dans quelle mesure c'est de l'ordre du naturel ou de la construction sociale. J'ai lu une étude hyper intéressante de chercheurs de l'Université de Pennsylvanie, c'est Robert Seyfarth et Dorothy Chenet, qui ont étudié les babouins, donc les babouins qui ont quand même un ADN à 99% similaire au nôtre. Et pour les babouins, en fait, ce sont les femmes qui dirigent un peu les tribus. Et les mâles, eux, sont considérés s'ils sont aimants, s'ils sont généreux, et c'était hyper intéressant de lire leurs travaux. Ça explique qu'en fait, c'est un schéma mais tellement différent de ce que nous, on pouvait avoir dans notre société humaine. Et j'entends totalement votre hypothèse. Et d'un autre côté, je peux m'empêcher de me demander dans quelle mesure c'est plus lié à des idéaux ou à un conditionnement social qu'à la nature. Et ce qui rejoint également un peu, j'ai l'impression, les types d'hommes qu'on va aimer ou les types de femmes qu'on va aimer, mais que notamment, beaucoup de femmes se retrouvent dans la situation où elles vont aimer un peu ce qu'on appelle des bad boys ou voilà, des hommes un peu toxiques. C'est revenu pas mal dans les questions que j'avais. Et elles ne savent pas pourquoi. Et en fait, quand on creuse un peu, c'est lié aussi à l'image de l'homme désirable et viril que l'on a véhiculé, que ce soit par le cinéma, par la littérature, et tout cela.
Alors, est-ce que c'est culturel ou naturel ? C'est vraisemblablement les deux, comme tout ce qui est humain. Si vous voulez. Est-ce que le langage est naturel ou culturel ? On a des gènes qui rendent le langage possible, mais si on n'apprend pas une langue, on ne parlera jamais. Donc, c'est les deux. Mais pour ce qui est de la partie culturelle qui existe forcément, mais heureusement qu'elle existe, si vous voulez. Reste à savoir, là, vous évoquez des études sur les grands singes, moi j'en ai lu d'autres, où on voit que le principal danger qui menace les bébés, singes, notamment les bébés gorilles, c'est les mâles qui ne sont pas le père et que les femelles passent beaucoup de temps et d'énergie à protéger leurs petits contre la violence des mâles, etc. Donc après, mais moi, je ne suis pas un éthologue, je ne suis pas un spécialiste de comportement animal. Non, mais je suis convaincu qu'il y a une part de naturel, notamment si 95% des crimes de sang sont faits par les hommes et donc 5% seulement par des femmes. J'ai du mal à croire que c'est uniquement parce que les petits garçons jouaient au cow-boy et que les petites filles jouaient à la poupée. Mais au fond, peu m'importe, quand même il n'y aurait que de la culture, raison de plus pour veiller dessus, comme sur la prunelle de nos yeux. Vous voyez. Et donc, quand Romain Gary dit « Dans toutes les cultures, la civilisation, ça commence à la mer, le pôle civilisé, c'est le pôle féminin », ça veut dire qu'il faut privilégier ces attitudes qui, historiquement, statistiquement, sont plus fréquemment assumées par les femmes que par les hommes, et tant pis pour les hommes, et à eux maintenant de progresser. D'ailleurs, ils ont malgré tout progressé à certains égards.
Est-ce que justement les couples ne sont pas de plus en plus culturels, au sens où j'ai l'impression que c'est de plus en plus des projets esthétiques ? Il y a une étude qui a été publiée par Statista en 2021 et qui montre que le premier lieu de rencontre, c'est les applications. Et finalement, là aussi, c'est un peu difficile, je trouve, de se dire que l'amour nous tombe dessus, mais en fait, ça a été une recherche quand même proactive. Et ce qu'on vient évaluer, finalement, c'est une projection sociale. C'est un peu ce que l'autre représente et ce que l'on va représenter avec lui. Je trouve que c'est une menace qui est quand même assez importante.
Oui, mais qui est une menace plus ancienne que les réseaux sociaux. Je me souviens, La Rochefoucauld, donc au XVIIe siècle, écrit que beaucoup de gens ne seraient jamais tombés amoureux s'ils n'avaient pas entendu parler de l'amour. S'ils n'avaient pas lu, notamment, des romans d'amour. Voyez. Et donc, dans les histoires d'amour, bien avant les réseaux sociaux, chacun essaye de vivre quelque chose qu'il connaît par ouï-dire ou par lecture. Mais vous avez raison, les rencontres qui se font d'abord sur Internet, sur un site de rencontre, avant de passer au réel, la façon dont on choisit ceux qu'on va accepter de rencontrer pour de bon ou pas, oui, je pense beaucoup à des critères, alors là, pour le coup, culturels, mais pas forcément au bon sens du terme. Peut-être aussi l'envie de paraître, il y a une part d'amour propre dans la passion amoureuse, dans le couple aussi, finalement. Il y a l'homme ou la femme au bras de qui on a plaisir à se montrer. Ça joue un rôle. Et raison de plus pour essayer de vivre autre chose que ça. Et c'est ça le critère d'authenticité. Moi, je crois beaucoup au couple comme lieu de vérité. Ça ne veut pas dire qu'on dit toujours toute la vérité à la personne dont on partage la vie, mais ça veut dire, dans un couple heureux, intime, qu'on lui dit beaucoup plus de vérité qu'on n'en a dit à personne d'autre. Le philosophe Alain écrit quelque part, finalement, c'est le couple qui sauvera l'esprit. Pourquoi ? Parce que je crois que le devenir de l'esprit se joue essentiellement entre deux choses qui sont l'amour et la vérité. Or, le lieu de conjonction possible entre l'amour et la vérité, ben, il me semble que c'est le couple par excellence. Alors, ça n'empêche pas, ça ne vaut pas les célibataires au malheur. On a mieux vaut être seul que mal accompagné, du moins, c'est ce que je crois. Mais malgré tout, ça dit quelque chose sur ce désir de vivre à deux. Et moi, je suis très frappé de voir que les jeunes, encore aujourd'hui, continuent, au fond, à chercher l'amour, comme vous disiez, au sens de, pas forcément l'amour unique, définitif, mais au sens de quelque chose qu'on bâtirait ensemble, quelque chose qui mériterait de durer. Vous voyez. Ça veut dire que si on veut quelque chose qui dure, il ne faut pas se contenter de la passion amoureuse. Et donc, toute l'histoire, c'est de savoir, une fois que Eros... la passion amoureuse s'arrête, est-ce qu'on tombe de plateau en Schopenhauer, quand il n'y a plus de manque, qu'il ne reste que l'ennui, ou est-ce qu'on monte de plateau en Aristote, de plateau en Spinoza, quand il n'y a plus de manque, qu'il reste la joie. Puisqu'au fond, quand Aristote écrivait « Aimer, c'est se réjouir », Spinoza, 20 siècles plus tard, complète la chose en disant « L'amour est une joie qu'accompagne l'idée d'une cause extérieure ». Autrement dit, « Aimer, c'est se réjouir de, hein, c'est ce petit de finalement que Spinoza ajoute peut-être sans le savoir à la pensée d'Aristote. Ça veut dire que aimer, c'est jouir et se réjouir de l'existence de l'autre, de la présence de l'autre, de l'amour de l'autre. Et cette expérience d'une joie à deux qui n'exclut pas les moments de tristesse, les moments de tension, les moments d'ennui parfois, c'est quand même, me semble-t-il, ce qu'on peut vivre de meilleur.
Il est l'heure d'une petite interro-surprise. Je vais vous partager des vérités que l'on peut remettre en question ou non. Et comme ça, vous pouvez m'expliquer, selon vous, si cette affirmation est vraie ou fausse. Rien n'est jamais plus fort que le premier amour.
Faux. Parce que le premier amour, en général, est une niaiserie folle. Je me souviens, mes deux premiers amours en maternelle et en classe de 4e, 3e. Non, c'était... Puis j'ai vécu beaucoup plus fort après.
C'est normal de douter dans une relation.
Oui, parce que nous sommes voués au doute, à l'incertitude, d'ailleurs vis-à-vis de soi-même. Il faut... On doute aussi de soi, mais a fortiori, douter de l'autre. Autant trop de certitude me paraît un peu inquiétant, parce que... Celui qui est certain que sa femme ne le trompera jamais se fait des illusions sur elle, mais se fait aussi des illusions sur lui. Il est tellement convaincu qu'il est le meilleur. Et non. Donc aimer, c'est douter. Qu'il y a un peu d'inquiétude dans l'amour, c'est normal. Autant que la pire inquiétude, c'est pas que l'autre me quitte, c'est qu'il tombe malade, c'est qu'il meurt. Et tout ça, ça fait partie de la condition humaine. Voilà. Autrement dit, aimer, c'est trembler. Ça fait partie. C'est vrai. Pour nos enfants, mais c'est vrai aussi dans le couple.
Aimer et être amoureux, c'est la même chose?
Ben non, c'est pas du tout la même chose. Comme disait Denis de Rougemont dans un beau livre, L'amour et l'Occident, être amoureux est un état. Aimer, un acte. Je dirais qu'être amoureux, c'est une façon d'aimer, mais fort heureusement, il y a d'autres façons d'aimer. Encore une fois, en grec, on appellerait philia, c'est-à-dire non pas le manque, mais la vie commune, la vie partagée, y compris dans le couple.
Si on a été seul longtemps, c'est que c'est nous le problème.
Oui, ça peut jouer, mais c'est aussi que les autres sont le problème. C'est quand même ce que je comprends quand j'écoute certains propos de femmes. Je me souviens, quand j'ai lu le livre d'Ovidie, vous savez, une actrice, anciennement actrice de porno, avec qui j'avais débattu il y a quelques années. Du coup, j'ai lu plus récemment l'un de ses livres, qui s'appelle « La chair est triste ». Et j'en étais abattu parce que j'avais le sentiment que les hommes, globalement, n'étaient pas à la hauteur. Alors peut-être que la demande des femmes est exagérée, peut-être qu'effectivement les hommes sont trop limités. En tout cas, je crois qu'en effet, il y a comme ça beaucoup d'insatisfaction. Mais non, je ne dirais pas que quand on est seul, c'est qu'on est soi-même le problème. Faut jamais omettre la part de chance dans l'existence. Il y a une part de chance qui est considérable pour tout. La première chance, c'est de naître. La deuxième chance, c'est d'être à peu près en bonne santé, donc de continuer à vivre. Mais je pense qu'il y a une part de chance aussi dans l'amour. Autrement dit, je ne crois pas du tout à l'âme sœur, au sens une seule personne au monde que je pourrais aimer, que vous pourriez aimer. Pas du tout. J'aurais pu aimer des dizaines de femmes, mais je suis très content d'en avoir choisi une, parce que si vous voulez en aimer des dizaines, vous n'en aimez en vérité aucune. Il faut choisir. On ne peut pas avoir 300 meilleurs amis, alors peut-être sur Facebook. On ne peut pas aimer passionnément 300 femmes, ni vivre en couple avec 300 femmes ou 300 hommes différents. Donc, il y a une part de chance, mais il y a aussi une part de choix. Et quand on a assez de chance pour avoir le choix, bah, du coup, il faut bien choisir.
Les hommes ont peur de s'engager.
Oui, c'est vrai, c'est ce qu'on dit souvent. Ils en ont moins envie. Alors, faudrait se demander s'il n'y a pas des explications qui relèvent de la préhistoire. C'est-à-dire que pour qu'un homme ait le plus de chance de transmettre ses gènes à la descendance la plus nombreuse, il faut qu'il fasse l'amour le plus souvent possible avec le plus de femmes différentes possibles. Et donc, le donjuanisme, si j'ose dire, est un avantage génétique du point de vue du strict darwinisme. Alors que pour une femme, bien sûr, c'est différent, parce qu'elle fasse l'amour avec 300 hommes ou avec un seul, son nombre de grossesses, en vérité, ne variera guère. Elle a besoin peut-être davantage d'un couple pour protéger ses enfants une fois qu'ils sont nés. Et donc, il n'est pas exclu, mais encore une fois, ce n'est pas mon domaine de compétence, mais il n'est pas exclu que quelque chose se joue aussi dans nos gènes tels qu'ils sont issus des 300 000 ans de préhistoire qui nous précède. Mais quelle qu'en soit l'explication, c'est vrai qu'il y a un fantasme d'homme, d'abord parce que très souvent, le sexe les intéresse plus que l'amour, un fantasme de liberté, et que donc l'engagement souvent leur fait un peu peur, et qu'inversement, les femmes tendent davantage, je crois, à vivre une histoire, pas forcément unique, mais une histoire durable, et donc sont davantage demandeuses d'engagement. Oui, je crois que c'est vrai. En plus, il y a une différence aussi de maturité. Là, je disais récemment qu'à mon avis, ce décalage tend à s'accentuer, parce que les jeunes garçons sont peut-être plus immatures plus longtemps qu'il y a quelques décennies. Or, pour s'engager, il faut un degré de maturité. On ne peut pas s'engager tant qu'on se vit comme adolescent ou comme adolescent. Et je crois que les jeunes femmes sont souvent matures ou adultes plutôt que les jeunes hommes.
Et enfin, il y a 5 langages de l'amour. Je ne sais pas si vous connaissez cette théorie.
Non, je ne connais pas
ça. En fait, je la vois de plus en plus fleurir sur les réseaux sociaux et qui expliquerait pourquoi il peut y avoir des couples qui ne fonctionnent pas. Et c'est si jamais, en fait, on ne connaît pas les langages de l'amour qui comptent pour nous ou qu'on n'a pas conscience de ceux de l'autre. Donc, il y en a 5. C'est les mots d'affirmation, les moments de qualité, le fait de rendre service, le fait d'offrir des cadeaux et le toucher. Et en fait, voilà, le but, c'est de connaître les siens et connaître ceux de l'autre pour avoir un couple épanoui. Est-ce que vous pensez que c'est vrai ?
Non, ou du moins, on pourra en citer 5, on pourra en citer 10, 20 ou 30. Il est vrai que nous sommes tous différents et que les différences des uns ne rencontrent pas forcément les différences des autres. Mais moi, j'attache davantage d'importance à une autre différence que je trouve chez saint Thomas d'Aquin, donc au XIVe siècle après Jésus-Christ, bien sûr, qui distingue l'amour de concupiscence de l'amour de bienveillance. L'amour de concupiscence, explique Thomas d'Aquin, c'est aimer l'autre pour son bien à soi. Quand je dis j'aime le poulet, c'est pas pour le bien du poulet. Par différence avec l'amour de bienveillance, qui consiste à aimer l'autre pour son bien à lui. Si je dis j'aime mes enfants, c'est pas seulement pour mon bien à moi, il y a toujours la concupiscence, mais c'est aussi et surtout pour leur bien à eux. Et je crois que dans le couple, c'est une bonne question de se demander qu'est-ce qui domine chez l'un et chez l'autre, amour de concupiscence ou amour de bienveillance. Et mon idée, c'est que dans le couple, il y a toujours les deux. Et il faut accepter qu'il y ait les deux. C'est-à-dire que il y a l'amour qui prend, concupiscence, et il y a l'amour qui donne. Et ce qui résume peut-être le mieux ça, c'est l'image archétypale de l'amour, qui est celle d'une femme, là encore, mais de la mère à l'enfant. Regardez la mère, regardez l'enfant. L'enfant, il prend le sein. C'est Eros, l'amour qui prend, il prend le sein parce qu'il a faim, parce qu'il a froid, parce qu'il a peur. Non pas pour son bien à elle, mais pour son bien à lui. Regardez la mère, elle donne le sein. C'est plus l'amour qui prend, c'est l'amour qui donne, qui se réjouit, qui partage. Au début, il n'y a que ça, comme dit Freud, c'est ce que Platon appelle Eros. Et puis la mère a appris à donner. C'est ce que les Grecs appellent philia. Et donc passer de l'amour qui prend à l'amour qui donne, ça s'appelle grandir, ça s'appelle devenir un adulte. Il y a un sage du XXe siècle, un sage hindou, Swami Prajnampad, sur lequel j'ai beaucoup travaillé, qui disait « L'enfant ne sait que prendre. L'adulte, c'est celui qui donne. » Et j'aime beaucoup cette formule parce qu'elle nous permet de mesurer en chacun d'entre nous notre part d'infantilisme, c'est la part qui ne sait que prendre, posséder, garder. Et notre part de maturité, c'est la part qui est capable de donner. Il y a amour dans les deux cas, l'amour qui prend, concupiscence, l'amour qui donne, bienveillance, mais ce n'est pas le même amour à chaque fois. Et puis surtout, il s'agit de passer de l'un qui d'abord est tout seul à l'autre, qui n'abolit pas la concupiscence, mais qui la complète et qui l'ouvre vers autrui.
C'est génial, j'ai même pas eu à vous demander qu'est-ce que le fait d'être adulte, vous venez parfaitement d'y répondre. Donc on va terminer par les petites questions des élèves, donc j'en ai sélectionné 3, il y en avait beaucoup. Solène nous demande comment différencier ce que l'on veut de ce dont on a besoin dans l'amour.
On a besoin de rien. Un besoin, c'est quelque chose, si on l'a pas, on meurt. Ouais. On meurt pas parce qu'on n'est pas aimé, non, donc c'est pas un besoin. Il faudrait surtout distinguer ce qu'on veut de ce qu'on aime, de ce qu'on désire, parce qu'on ne peut vouloir que ce qui dépend de nous. Vous ne pouvez pas vouloir qu'il fasse beau le week-end prochain, ça ne dépend pas de vous. Vous ne pouvez pas vouloir que l'autre vous aime, ça ne dépend pas de vous.
C'est l'espérance.
Oui, voilà, c'est l'espoir, et tout espoir est déçu toujours. Donc, il s'agit, de mon point de vue, de désirer un peu moins ce qui ne dépend pas de nous, donc espérer un peu moins, et donc craindre un peu moins, parce qu'il n'y a pas d'espoir sans crainte, ni de crainte sans espoir, et désirer un peu plus ce qui dépend de nous, donc vouloir un peu plus, donc agir un peu plus. Demandons-nous qu'est-ce qu'on peut faire, nous, et qui dépend de nous. Ça peut aller de la séparation, on a le droit de se séparer. Bien sûr, il faut dire en passant que le divorce est un formidable progrès sociétal, c'est un gain formidable de liberté, et d'abord pour les femmes, là encore. Donc c'est tant mieux qu'on puisse se séparer, mais voilà, plutôt que de pester contre ce que l'autre devrait faire ou devrait être et qu'il ne fait pas ou qu'il n'est pas, réfléchissons d'abord à ce que nous pouvons faire, à ce qui dépend de nous et que diable, faisons-le.
Ensuite, Émilie nous demande comment déconstruire le schéma avec lequel on a grandi. Je serai heureuse quand j'aurai enfin trouvé le bon.
Mais voilà, il suffit de le trouver pour te rendre compte, ça ne suffit pas au bonheur. Voilà, c'est aussi bête que ça. Ouais. Autrement dit, là encore, Aristophane dit des niaiseries. Quand on a trouvé sa moitié, on est forcément heureux, mais ce n'est pas vrai, évidemment. Prenez le couple amoureux, passionnément amoureux, ils font un enfant, l'enfant meurt. Ils sont extrêmement malheureux. Et donc le couple n'a jamais empêché personne de souffrir ou d'être malheureux, ni de s'ennuyer. Donc la meilleure façon de ne plus se raconter des histoires sur le grand amour, l'amour avec un grand A, comme on disait quand j'avais 15 ans, c'est de le vivre. C'est-à-dire qu'une fois qu'on arrête de se raconter des histoires sur l'amour, on découvre que l'amour vrai, c'est quand même plus intéressant que pas d'amour du tout. C'est moins exaltant que l'amour rêvé, mais enfin mieux vaut faire l'amour que le rêver. Et je dirais faire l'amour à tous les sens du mot, au sens sexuel bien sûr, mais aussi au sens bâtir à deux quelque chose qui mérite de durer. Et donc la meilleure façon de se libérer des schémas pseudo-romantiques sur le grand amour, c'est de le vivre et de constater que c'est du pipeau.
Que c'est décevant.
Mais l'amour véritable commence une fois qu'on a compris ça. Une fois qu'on a compris que l'autre n'était pas ce qu'on croyait, n'était pas un prince charmant, c'est pas la femme idéale, et qu'on découvre qu'on est capable de l'aimer quand même.
Et enfin, dernière question qui est pas mal revenue, là, c'est de Camille. Le désamour est-il inévitable ?
Pour ce qui est de la passion amoureuse, oui, c'est inévitable. Ou alors, sauf, la passion amoureuse ne peut durer indéfiniment que dans le malheur. Alors, il y a un beau film qui illustre ça, c'est Adèle H. de Truffaut, qui est l'histoire vraie de la fille de Victor Hugo, Adèle, qui tombe amoureuse passionnément d'un officier britannique, d'ailleurs irréprochable, qui ne fait rien pour la séduire, qui ne lui promet rien, qui ne l'aime pas. Et donc, elle va aimer follement cet homme, jusqu'à mourir folle, au sens propre du terme, dans un asile psychiatrique. Et donc, la passion peut durer toute la vie à une seule condition, mais stricte, c'est qu'elle soit malheureuse. Parce que dès lors qu'elle est heureuse, donc dès lors qu'on vit avec la personne qu'on aime passionnément, comme on ne peut pas manquer de celui qui est là tous les soirs, tous les matins, qui partage votre vie et votre lit, le couple, inévitablement, met fin à la passion. Mais ce n'est pas grave, et même c'est bien, parce que ce n'est pas moins d'amour, c'est plus d'amour. Vous savez ce que disait cruellement Nietzsche ? Une brève folie, voilà ce que vous appelez l'amour. Ça, c'est la passion amoureuse. Et à cette brève folie, le mariage met fin par une longue sottise. Ça, c'est la version misanthrope, misogyne de Nietzsche. La vraie question, c'est quand on comprend que la passion amoureuse ne peut pas durer, mais qu'on découvre que vivre à deux, c'est quand même beaucoup plus intéressant, beaucoup plus agréable, beaucoup plus riche que vivre seul, on est bien parti pour vivre une véritable histoire d'amour. Et donc, pour moi, l'histoire d'amour la plus intéressante, c'est justement celle qui suit le désamour. C'est une fois qu'on n'est plus passionnément amoureux qu'on va voir si on est capable d'aimer vraiment. C'est une fois que l'autre ne sera plus amoureux ou amoureuse de moi que je pourrai voir s'il est capable, si elle est capable de m'aimer vraiment. Et donc voilà, donc, la véritable histoire d'amour, du moins la plus intéressante, la plus riche d'enseignements, la plus heureuse, bien souvent, c'est celle qui succède à la passion.
Merci André. Pour terminer, j'ai juste envie de vous demander, qu'est-ce que c'est pour vous d'être un adulte ?
C'est renoncer à un certain nombre de rêves d'adolescent. C'est avoir compris que toute espérance est déçue toujours, mais ça, je l'ai compris assez tôt. Être vraiment adulte, c'est l'accepter joyeusement. Autrement dit, être adulte, c'est accepter ce qu'il y a de désespérant dans la condition humaine. La première chose d'espérance, c'est qu'on va tous mourir. Alphonse Allais écrit quelque part... Ne nous prenons pas au sérieux. Il n'y aura aucun survivant. Ben oui, ça vous amuse. Et ça, c'est exactement ce que j'appelle le gai désespoir. Vous voyez et pour moi, être adulte, c'est ça. C'est être à la fois désespéré et gai, comme dit, je crois, Guy Bedos, si mes souvenirs sont bons. C'est-à-dire ne plus avoir besoin de se faire des illusions sur la vie pour aimer la vie. Autrement dit, être adulte, c'est aimer la vie telle qu'elle est.
Merci André Comte-Sponville d'avoir été notre professeur aujourd'hui.
Je dirais de grandir.